J'avais vraiment à cœur de vivre ce matin un culte de rentrée et de vivre un culte informel. Ma grand-mère disait, c'était Sully qui disait ça dans un de ses livres, l'étrangère, l'habitude est une étrangère qui supplante en nous la raison. L'habitude est une étrangère qui supplante en nous la raison. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à faire des choses par habitude et à un certain moment, on ne se rend plus compte que l'on fait des choses par habitude. Et on n'a plus la maîtrise des choses parce qu'on les fait et on ne se rend même plus compte. Voilà. Donc ce matin, je voulais bousculer un petit peu ce culte et vous apporter quelque chose de différent. Voilà. Donc c'est un culte de rentrée, un culte un peu informel, mais c'est quelque chose vraiment que le Seigneur m'a mis à cœur. Et voilà, moi je ne peux rien faire si l'Esprit ne me donne pas. On ne peut pas faire, on ne peut pas dire, partager si on n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. Alors voilà, je vais vraiment me retirer et humblement laisser toute la place au Seigneur ce matin. Voilà, merci. Alors le culte de rentrée sera particulier, oui. Et nous avons ce matin un invité qui est exceptionnel. Alors, est-il déjà arrivé? Va-t-il arriver? À votre avis, est-ce que l'invité est là ce matin? Il est là? Alléluia, alléluia. Alors ce matin, c'est une rentrée particulière parce que c'est la rentrée du Saint-Esprit ce matin dans notre assemblée. Nous allons parler du Saint-Esprit. Mais nous allons parler plus que du Saint-Esprit. Voilà. Dans Ézéchiel 2, au verset 2, la parole nous dit « L'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entends celui qui me parlait. » J'entends celui qui me parlait ou j'entends celui qui me parle. Mes amis, je souhaite de tout cœur qu'au terme de ce temps que nous allons passer ensemble, je souhaite vraiment qu'on puisse être à l'écoute du Saint-Esprit, que nous puissions recevoir toutes ces bénédictions que le Père veut nous donner, à la fois de façon personnelle, parce qu'il va parler de façon personnelle au cœur de chacun, peut-être qu'il va parler pour les couples, peut-être Christine, Jacques, peut-être, même si vos femmes ne sont pas là, il va parler pour votre couple, vous aurez certainement une parole à donner à votre conjointe, conjoint en rentrant. Oui, nos amis Michel et son épouse, peut-être. Le Seigneur a une parole pour toi ce matin, mon grand. Voilà, donc, et aussi pour l'Église, c'est le culte de rentrée. Je pense que le Seigneur va nous parler à nos cœurs pour notre assemblée. Et certainement des paroles d'encouragement. Vous voyez, ce matin, nous ne sommes pas trop nombreux. Des paroles d'encouragement. Quoi que vous receviez, si c'est personnel, si c'est confidentiel, gardez-le. Si vous recevez quelque chose pour notre assemblée, pour l'Église, dans la mesure où ça édifie, hein, d'accord ? Je vous ai laissé une feuille et un crayon. Vous pourrez mettre tout à l'heure le verset biblique et ensemble, nous pourrons discerner la volonté de Dieu. Alors, dans un premier temps, ce n'est pas une prédication que je vous amène, c'est un enseignement. D'accord ? Il y aura un temps de prière, il y aura un autre temps d'enseignement, un temps de prière, et ensuite, nous allons vivre un temps pratique. Et ensuite, Michel animera la Sainte-Seine, et nous continuerons à prier. Amen. Alors voilà. J'ai vraiment à cœur depuis plusieurs mois qu'on puisse écrire là en grand. Soyez fervent d'esprit. Soyez fervent d'esprit. L'esprit est en nous. C'est dans Romains 12, verset 11. Oui, j'ai vraiment à cœur qu'on puisse écrire ça. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais bon, le Seigneur va faire, il va pourvoir. Alors, qui est le Saint-Esprit ? En hébreu, rua, le souffle, en grec, pneuma. Le Saint-Esprit est une personne. Il est une personne. Il est l'enfant pauvre de la Trinité. Il est l'enfant pauvre de la Trinité. Et pourtant, il œuvre depuis la création du monde. Souvenez-vous, dans Genèse 1, versets 1 à 2, la parole nous dit, c'est tout début de votre Bible. Thérèse, tu prends Genèse, c'est tout au début de ta Bible. Voilà, on va faire un apprentissage dans le premier testament, tu vois, la première alliance. Voilà, on va travailler ce matin, je vais vous faire travailler. La parole est vivante. La parole, c'est un parachute. Mais si on n'ouvre pas le parachute, ça ne sert à rien. Donc ce matin, Genèse, chapitre 1, versets 1 à 2. Voilà. Alors nous pourrons lire ensemble. Tu as trouvé la Genèse dans ta Bible? Il n'y a pas de Genèse dans ta Bible. Mais si, il y a la Genèse dans ta Bible. Oui, oui, voilà, c'est bien. Je suis taquin, hein. Bon, la terre était informe, nous dit la parole, et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, parce que le chapeau de l'abîme est tombé dans l'abîme. Vous vous souvenez de cette règle grammaticale? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le pluriel de « elle », c'est-à-dire « Dieu », en hébreu, est « Elohim ». « Elohim » est un pluriel. Donc, on voit déjà que Dieu est un, mais il y a déjà, à l'origine de la création du monde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est de tout temps dans l'unité de Dieu, c'est-à-dire un. Le Saint-Esprit fait partie intégrante en tant que personne dans l'unité de Dieu. Dans 2 Corinthiens 13, verset 13, il est bien spécifié, c'est corroboré, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens 13, verset 13. Alors, qui reçoit le Saint-Esprit? Qui peut recevoir le Saint-Esprit? Mais, mes amis, toutes les personnes qui sont nées de nouveau. Alors, ça veut dire quoi, naître, né de nouveau? Eh bien, on va le voir ensemble. Retrouvons ensemble. C'est un chapitre que moi, je partage très, très, très facilement autour de moi. Vous voyez, parce que là, on parle d'une nouvelle naissance, on parle d'une rencontre, on ne parle pas de religion. C'est la rencontre de Nicodème avec Jésus. Jean chapitre 3, verset 3. Nicodème va voir Jésus, il dit, « Mais maître, tu dis qu'il faut naître de nouveau, mais moi je ne peux pas retourner dans le ventre de ma mère, c'est impossible. Quelle est la signification ?» Et Jésus va dire, « Attends, mais tu es maître de la loi et tu ne connais pas ça. » Regardons ensemble. « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Il faut naître de nouveau. Au verset 6, il est dit, « La puissance naturelle ne transmet que la vie humaine naturelle. Seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'esprit. Il faut naître d'eau et d'esprit. » Ça parle par une conversion. Cette conversion nous amène à cette nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance passe obligatoirement par la confession de nos péchés, par la repentance de nos péchés, par le renoncement à ces péchés, par la demande de pardon à Dieu. Et l'accueil de Jésus, Sauveur et Seigneur, dans nos cœurs, en lui donnant notre vie, notre cœur. Parce que le cœur, c'est la vie. La conversion vient du cœur, elle ne vient jamais de la chair, elle ne vient jamais de notre intelligence, elle vient par notre esprit. On ne naît pas chrétien, mes amis. On peut avoir un héritage d'une tradition religieuse, on ne naît pas chrétien, on le devient. Amen. Alors lorsque l'Esprit Saint, alors là, l'Esprit Saint confesse en nous. à ce moment-là, dans la conversion, dans la nouvelle naissance, dans un cœur nouveau que Jésus nous donne, alors là, l'Esprit Saint confesse en nous que nous sommes enfants de Dieu. 1 Jean 4, verset 2. Thérèse, écoute-moi. D'accord ? Non mais tu peux me tutoyer. Écoute-moi, on travaillera avec la Bible après. Écoute-moi. 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 D'accord ? 1 Jean 4, verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est clair, c'est net, c'est précis. Dans Romains 8, verset 9, pour vous, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, nous dit la parole. Quand nous nous attachons au Seigneur Jésus-Christ, nous formons avec lui un seul esprit. C'est ce que nous vivons dans notre assemblée. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, il y a un seul esprit qui nous guide, qui nous conduit et qui nous enseigne. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19, la parole nous dit, ça c'est très important, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Nous sommes habités, mes amis, par le Saint-Esprit, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est libre, complètement libre, et personne ne peut avoir et prétendre qu'il ait l'exclusivité du Saint-Esprit. Non! Il n'y a pas plus de personnes dans une église plus spirituelle qu'une autre. C'est faux. L'Esprit est en chacun de nous, il faut savoir simplement le libérer. L'Esprit est en toi, mon frère, ma sœur. L'Esprit est en toi. Laisse-le. Libère-le. L'Esprit est dans ton cœur. Il ne demande qu'à grandir. Libère. Libère le Saint-Esprit. Laisse-lui toute la place. Alors comment reçoit-on le Saint-Esprit? Comment le reçoit-on? Peut-être dire, ah oui, mais bon. C'est un acte de foi. Il faut l'accueillir. Il faut y croire. Demandons-le. Alors faut-il être baptisé? Ben écoutez, si on revient dans Actes 10 au verset 1, Pierre est allé chez Corneille. Corneille avait le Saint-Esprit, mais il n'était pas baptisé. Laissons libre le Saint-Esprit. Ne l'enfermons pas dans une tradition, dans une religion. Bien sûr, Pierre a dit, étant donné qu'ils sont remplis de l'Esprit, mais oui, on va les baptiser. Amen. On va les baptiser. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, je le répète, mon frère, ma sœur, tu as le Saint-Esprit en toi. Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Si aujourd'hui tu crois en Dieu, si tu crois que Jésus est ton Sauveur, c'est le Saint-Esprit qui agit en toi et qu'il confesse en toi. Bien sûr, la famille ensuite de Corneille sera baptisée. Comme nous le demande Jésus, de baptiser dans les derniers versets du chapitre 28 dans Matthieu. Allez dans le monde, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le baptême d'eau préfigure souvent le baptême de l'Esprit, le baptême ou l'effusion, et le don de la prière en langue. Oui, et là encore une fois, nous pouvons très bien avoir le Saint-Esprit, mais ne pas parler en langue. Pourquoi mettre les gens dans des cadres, encore une fois? On peut très bien ne pas parler en langue et être rempli du Saint-Esprit. Mais oui, mes frères et sœurs. Oui. Laissons libre le Saint-Esprit. Laissons la spontanéité du Saint-Esprit. Ne l'enfermons pas. Il est bien que l'on puisse se mettre devant Dieu pour avoir l'approbation dans certaines choses. Vous voyez ? L'approbation de Dieu, on prend, on le met à son écoute. On peut prier, on peut jeûner, oui. Mais ne brisons pas la spontanéité du Saint-Esprit en nous quand il veut nous parler. Ne brisons pas cette spontanéité. Et arrêtons, s'il vous plaît, de croire que d'autres chrétiens soient plus spirituels que vous. C'est faux. C'est faux. Vous êtes capables. Vous êtes capables d'entendre le Seigneur, vous êtes capables d'entendre son Saint-Esprit. Vous êtes capables. Il faut simplement être en règle avec Dieu et rentrer et libérer l'Esprit du Seigneur qui est en vous. Recevons-le, prions. Oui Seigneur, je veux encore plus de ton Saint-Esprit. Peut-être devons-nous demander la position des mains. Mais alors là, faites encore très attention à qui va vous imposer les mains. Le Saint-Esprit est la promesse de Dieu pour ses enfants. Nous pourrons voir dans Jean 16, verset 7, « Il est avantageux, Jésus, que dit, il dit, je suis, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, c'est une promesse. Dieu tient ses promesses. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. » Oui, la justice et le jugement. Il est dit, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses te seront données en su. Au verset 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous guide dans la vérité. Jésus dit, le Saint-Esprit prendra ce qu'il y a en moi, la vérité, et il va vous donner tout ce qu'il y a en moi. Vous vous rendez compte de ce cadeau? Le Saint-Esprit nous est envoyé pour avoir une communion avec notre Père tous les jours, à tout moment. Et cette connexion qui est progressive, c'est un travail, elle doit devenir constante. Soyez prudents, faites attention. Attention à l'ennemi. La parole nous dit aussi dans 1 Jean 4, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Quel est le fruit de l'esprit que nous avons en face de nous? Bien souvent, nous avons des tendances, nous avons des tiraillements, il y a des choses qui se passent dans les églises, c'est parce que, ensemble, l'esprit, cet amour n'est pas partagé. C'est pour ça qu'il y a autant de distensions dans les églises. Voyez, si nous avions tous cette révélation, il n'y aurait pas cette distension. Quel est le fruit de l'esprit? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que autour de soi, on a ces esprits? Est-ce qu'ils confessent Jésus-Christ Seigneur et Sauveur? L'ennemi est rusé, vous savez. L'ennemi est très rusé. À chaque manifestation, à chacun la manifestation, de l'Esprit est donné pour l'unité. Je dis bien pour l'unité, c'est très important. C'est l'Esprit qui fait l'unité. Elle fait cette unité commune et elle nous donne ce que je vais appeler Monique, les dons de l'Esprit. Ces dons d'Esprit sont donnés pour édifier l'Église de pierre vivante que nous sommes, nous. Pour édifier l'Église. Monique, tu veux bien venir, s'il te plaît?
Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses activités, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. L'Esprit donne à l'un de parler selon la sagesse, et à un autre, le même Esprit donne de parler selon la connaissance. Ce seul et même Esprit donne à l'un une foi exceptionnelle et à un autre le pouvoir de guérir les malades. L'Esprit accorde à l'un de pouvoir accomplir des miracles, à un autre le don de transmettre des messages reçus de Dieu, à un autre encore la capacité de distinguer les faux esprits du véritable esprit. À l'un, il donne la possibilité de parler en des langues inconnues et à un autre la possibilité d'interpréter ces langues. C'est le seul et même esprit qui produit tout cela. Il accorde à chacun un don différent comme il le veut.
Amen. Si, Monique, tu pourras revenir, hein, tu lis bien, c'est super. Alors, vous voyez le problème que nous avons dans beaucoup d'églises, c'est la comparaison. Celui-là, le don des langues, eh ben moi je l'ai pas. Celui-là, il a l'onction, il a ceci, il a cela, voilà. Et ce que nous avons du mal à comprendre, c'est que le Seigneur, c'est lui qui décide, c'est pas nous. C'est le Seigneur qui décide de donner un don à ses enfants, toujours pour édifier l'Église, pour édifier ton frère, pour édifier ta sœur. Ce n'est jamais, ça peut être pour toi, mais c'est avant tout pour édifier l'Église et pour apporter la foi et la grâce de Dieu, le salut. Voilà, ça, c'est une certitude. Maintenant, dans Éphésiens 4, verset 11, regardons ce que l'Esprit donne à l'Église. Il donne l'entièreté de la personne de Jésus. Il donne dans Éphésiens 4, verset 11, les ministères de l'Église. Il donne les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Comme il est difficile d'avoir tout ça réuni dans une Église. Vous voyez ? Mais bien souvent, dans certaines Églises, on va chercher un prophète qui vient nous prophétiser dans notre assemblée. Vous voyez ? Mais tout ça, c'est aussi des dons de l'Esprit. Et le don de la foi, c'est un don qui est exceptionnel. Parce que ce don de la foi nous donne la certitude de l'exaucement de notre prière dans toutes les circonstances. Quand nous prions avec le don de la foi, eh bien nous sommes persuadés que les choses vont arriver parce que Dieu le veut. C'est le don de la foi, le don aussi, le fruit de l'esprit. Là aussi, les fruits, le fruit, la parole dit le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. On a du travail encore, hein, nous tous. Hein. On a du travail, hein. Mais on est sur le bon chemin. Le Saint-Esprit nous apporte la grâce de Jésus-Christ dans nos corps. L'Esprit-Saint nous qualifie. Oui, c'est toujours l'Esprit-Saint qui qualifie. Il va quelquefois chercher des personnes, des bergers comme David, des gens qui ne sont pas instruits. Et vous voyez, David est devenu le roi d'Israël. Il change l'ordinaire en extraordinaire, le Saint-Esprit. Il nous équipe pour la mission selon le profit de chacun. Et bien souvent, il prend nos dons naturels, pour les mettre dans le domaine spirituel. C'est exceptionnel. Et c'est toujours pour sa gloire, c'est jamais pour la nôtre. Il nous conduit dans l'excellence. Il nous assiste dans la prière, dans l'adoration, dans la louange. Et il nous équipe pour le ministère. Alors, vous voyez, nous avons eu un défaut charnel pendant des années avec l'esprit religieux qui était sur les églises. Beaucoup disaient, ah oui, 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 mais les dons du Saint-Esprit ont été donnés pour l'Église primitive, hein, qui n'était... primitive, oui. Mais plus maintenant. C'est ce qui a fait qu'il y a eu une dimension charismatique dans les Églises et pas dans d'autres. Et encore aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Il faut savoir que nous avons beaucoup, nous avons... Je pourrais dire, ils ont, mais nous avons boudé le Saint-Esprit pendant des siècles en le rendant mal à l'aise dans les églises. Oui, et vous savez ce qu'il fait le Saint-Esprit quand il se sent mal dans une église? Eh bien, il s'en va. Il te dit, bah, attends, t'as ta vision? T'as ta vision, mais c'est pas la mienne. Je pars, je m'en vais. Tes voix ne sont pas mes voix, tes pensées ne sont pas mes pensées. T'as ta vision, t'as ta façon. Écoute, ben voilà. T'as mis une chape de plomb, t'as fermé les verrous, je m'en vais. Dans 2 Corinthiens verset 13, verset 3. 2 Corinthiens 3, verset 17, la parole nous dit, or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là, où est l'Esprit du Seigneur? Là est la liberté. Là, il a une liberté. Quand le Saint-Esprit est libre, il est présent. Quand nous l'enfermons dans notre fonctionnement, le Saint-Esprit s'en va. C'est clair, c'est un et un font deux. Vous voyez, dans la Bible, il y a différentes représentations du Saint-Esprit. Il y a l'eau, il y a le vent, il y a l'huile, il y a le vin. Mais regardez, cette représentation du Saint-Esprit, quand Jésus est dans le Jourdain, quand il prend le baptême avec Jean-Baptiste, voyez, il y a quelque chose qui tombe sur Jésus. Qu'est-ce que c'est? La représentation du Saint-Esprit, elle est laquelle? Dites-moi, parlez-moi. La colombe, Monique. Mais vous imaginez qu'une colombe, la fragilité d'une colombe, c'est un animal qui est très, très, très fragile. On doit en prendre soin. On doit la dorloter. On doit vraiment la soigner. Et le Saint-Esprit, il est comme ça. Le Saint-Esprit est fragile. Éphésiens 4, verset 30, la parole nous dit, « N'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu. » Et dans Thessaloniciens, n'éteignez pas l'Esprit de Dieu en nous. Par notre péché, cela nous conduira à assécher notre foi et ne plus entendre sa voix. Nous allons être brouillés dans les interférences. Nous avons tous le droit à l'erreur. Mais nous devons tous, nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous imparfaits. Mais dans un cœur repentant, nous pouvons demander pardon au Saint-Esprit. La parole nous dit dans Philippiens 1, 27, « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. » Oui, n'attristons pas le Saint-Esprit par nos dires, par nos comportements, par nos critiques, par les racines d'amertume que nous pouvons avoir en nous. Nous attristons le Saint-Esprit. Prenons cette distanciation et tout ça. Soyons, mes frères et sœurs, des assoiffés de sa présence. Le Saint-Esprit est l'oxygène indispensable à notre vie, car il nous conduit dans l'amour et la miséricorde du Père. Notre Père est miséricorde de Dieu, il nous pardonne. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Amen. Il nous permet, ce Saint-Esprit, de continuer à aimer quand on n'arrive plus à aimer. Oui, il nous donne cet amour nécessaire, indispensable pour pardonner même à nos pires ennemis, quelquefois des choses qui sont impardonnables. Il crée l'unité dans l'Église. Oui, mes frères et sœurs, il crée l'unité dans l'Église. Il nous conduit dans le chemin de la sanctification, de la purification de notre âme, de nos corps et de notre esprit. Je vais vous proposer un premier temps de prière. Si vous êtes d'accord. Nous avons tous derrière nous des boulets. Nous avons peut-être, ce matin, hier, avant-hier, peut-être attristé le Saint-Esprit. Et j'aimerais vous conduire dans la prière pour qu'on puisse se libérer. Vois, Saint-Esprit, tu connais nos cœurs à chacun. Tu sais que nous sommes imparfaits. Tu sais les combats qui sont en nous. Tu sais notre volonté vraiment d'aller à toi, de te ressembler. Mais Seigneur, nous sommes pécheurs. Alors peut-être que, avec ma femme, avec mon voisin, peut-être avec moi-même, j'ai peut-être regardé des choses que je ne devais pas, écouté des choses que je ne devais pas. J'ai peut-être attristé ton Saint-Esprit, Seigneur. Et Saint-Esprit, je t'en demande pardon. Pardon, Seigneur, d'avoir attristé ton Saint-Esprit. Pardon. Pardon. Et là, maintenant, je reçois ton pardon. Je reçois ton pardon dans mon cœur. Je suis nettoyé, lavé, Seigneur, de tout ce qui a pu mettre cet espace entre toi et moi. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, le Saint-Esprit est omniprésent dans la Bible. Il est omniprésent. Il a accompagné tous les serviteurs de Dieu. Tous. De la Genèse à l'Apocalypse. Si on reprend les derniers textes de l'Apocalypse, et la parole nous dit, au chapitre 22, 17, « Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. » Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. La parole de Dieu est vivante, car Jésus est vivant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Dans Hébreux 4, verset 12, la parole nous dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Vous imaginez cette parole, ce qu'elle peut faire. Jésus est la parole de Dieu. Il est le Logos, il est cette parole qui s'est incarnée sur terre. Il est la semence de vérité. Cette parole qui s'est fait chair parmi nous. Et nous avons aussi le Réma. Le Réma, qui est la parole de Dieu qui devient lumière en nous et nous rejoint dans notre esprit et descend dans notre cœur. Le Réma. Il descend dans notre cœur, il descend dans notre âme, il descend dans notre intelligence, l'âme, l'intelligence est dans l'âme. L'évangile de Christ, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Elle est la source de notre foi, elle est la source de notre espérance. Que ferions-nous aujourd'hui si nous n'avions pas la parole de Dieu? La foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 8. Nous avons la parole, mes amis. Nous avons la parole. La parole est là. La parole de Dieu est là. Mes frères et sœurs, il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose. Il nous manque la puissance. Il nous manque la puissance. Il nous manque la puissance de Dieu. Nous avons la parole, mais nous n'avons pas la puissance. Nous avons besoin d'avoir la puissance du Saint-Esprit qui donne vie à la parole. La parole est vivante. Oui. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vivre le miraculeux de Dieu. Nous avons besoin d'avoir la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Et la parole est une parole de vie. Amen. La parole à elle-même seule n'est pas suffisante parce qu'elle n'est pas toujours accompagnée par le Saint-Esprit. La parole sans le Saint-Esprit est une lettre morte et elle est souvent hermétique. Bien souvent, les gens, quand vous parlez de la parole, ils ne comprennent rien. Elle est hermétique parce que vous n'avez pas l'onction, parce que nous n'avons pas l'onction. Elle peut apporter la rigidité, elle peut nous apporter la condamnation et la mort spirituelle parce que vous savez... Elle n'a pas la substance de la grâce de Dieu qui nous est donnée par l'onction. C'est la grâce, C'est une parole de grâce. Amen. Quelquefois, la subtilité d'un mot, selon les traductions, peut apporter le désordre entre les frères et sœurs. La parole de Dieu peut devenir source de conflit. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit qui donne vie et puissance à la parole et nous conduit vers le cœur du Père. Nous avons besoin de cette onction. Nous avons la parole, nous avons impérativement besoin de l'onction du Saint-Esprit afin que la parole devienne, illumine et devienne lumière dans le cœur de chacun. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin de cette onction. Nous avons besoin du feu, de l'Esprit-Saint en nous, pour nous, et pour l'apporter au monde et allumer des grands feux dans le monde. Nous avons besoin de cet Esprit-Saint, nous avons besoin de cette onction de Dieu pour allumer des grands feux, peut-être aussi pour souffler sur la braise. Il y a peut-être encore des braises autour de nous. Les feux ne sont peut-être pas toujours éteints complètement, mais nous avons besoin de souffler sous la braise pour rallumer le feu de Dieu dans les cœurs qui sont autour de nous. Amen. Oui, frères et sœurs, nous avons besoin de cet Esprit-Saint. Et nous l'avons tous en nous, tous. Alors le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, vous allez me dire c'est pareil. Je vais vous expliquer. Nous avons vu que le Saint-Esprit est une personne. Nous avons vu que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Mais l'onction est la personnalité du Saint-Esprit. L'onction est la personnalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit représente Jésus sur terre. Et l'onction représente sa puissance. L'onction est la substance du Saint-Esprit qui donne la puissance, notamment à la parole. L'onction est la vertu, la caractéristique de la personnalité de Dieu qui doit impacter notre propre personnalité afin de vivre dans le Saint-Esprit. Est-ce que ça va pour tout le monde ? J'ai essayé de faire les choses simples. Je répète, le Saint-Esprit est une personne, la troisième personne. L'onction est la personnalité. Rémi, tu es une personne, mais tu as aussi une personnalité. On est d'accord ? Le Saint-Esprit représente Jésus sur terre, et l'onction représente sa puissance. L'onction est la substance du Saint-Esprit qui nous donne la puissance. Amen. Regardons dans Ésaïe 11, verset 1, ce que nous dit l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel, c'est un esprit de puissance, un esprit de sagesse, d'intelligence, un esprit de conseil, de force, un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. L'onction dans la prière nous permet d'avoir la victoire. Dans la prière, dans les combats spirituels. Oui, dans la délivrance, dans la guérison, aussi dans l'intercession. Oui, et aussi dans la prophétie. Paul a dit, je préfère que les gens prophétisent dans l'Église. Amen. Elle nous apporte la paix, la joie et aussi l'espérance de la vie éternelle. L'onction imprègne, elle nous imprègne, elle nous adoucit, elle tranche, elle tranquillise, elle porte une parole comme une dynamite par moment en nous, ou comme le sel et le sucre, mais toujours avec subtilité. Le Saint-Esprit et l'onction de Dieu ne viendra jamais vous faire du mal ni vous bousculer, jamais. Elle ouvre nos cœurs par notre esprit et touche, et nous touche dans nos émotions, quelquefois par des larmes bienfaitrices qui sont là, bienfaitrices et salvatrices. Dieu, notre Père, veut nous donner le meilleur, et le meilleur qu'il réserve pour chacun de ses enfants. Alors, le Seigneur te dit ce matin, mais mon enfant, quand est-ce que tu vas venir m'asseoir en ma présence ? Je t'attends. Quand est-ce que tu vas venir m'asseoir ? t'asseoir à côté de moi. Quand est-ce que tu vas me donner ton temps ? Nous devrions devenir des désespérés, des assoiffés de la présence de notre Père. Et son éloignement devrait nous rendre malades. Amen. Alors je le répète, le Saint-Esprit est en chacun de nous. L'onction peut nous être donnée d'une façon temporelle ou intemporelle. Moi j'ai des amis, ils sont partis, tu te rappelles Marie-Françoise, elle est partie aux Antilles en tant qu'évangéliste et elle avait reçu une onction particulière. Elle était au service du Seigneur et elle a vu des choses. Nous-mêmes, quand nous sommes partis en Angleterre, en mission, nous avons vu la main de Dieu. Et nous avions reçu une onction particulière là-bas pour travailler pour la gloire de Dieu. Est-ce que nous sommes convaincus ce matin? Allez chacun d'entre nous. Parce que nous avons reçu la révélation de la grâce par son Saint-Esprit. Alors il y a bien sûr des conditions sine qua non. Ce qu'on appelle sine qua non, c'est des conditions indispensables. Il faut tout d'abord recevoir la sagesse. Parce que vous savez, si vous n'avez pas la sagesse, vous pouvez faire très mal. Vous pouvez faire très mal. Je pourrais devenir pire qu'un pharisien. Il nous faut aussi l'humilité. Si nous voulons recevoir l'onction de Dieu, il nous faut cette humilité. Il nous faut nous mettre à genoux. Nous ne pouvons pas faire bouger la volonté de Dieu tant que la volonté de Dieu ne nous fait pas bouger dans l'obéissance, l'humilité, dans la soumission à son esprit. Et nous devons être plantés, mes frères et sœurs, dans un fleuve de grâce, qui veut dire un fleuve d'amour. Amen. La semence est la parole de Dieu, et quand l'onction touche la parole, la semence, je recommence, la semence est la parole de Dieu, quand l'onction de Dieu touche la semence, c'est-à-dire la parole, cette parole devient alors puissance et amène le surnaturel de Dieu dans la délivrance, la guérison, la prophétie, et tout ça pour la gloire. L'onction amène la substance de la semence à sa manifestation. Et ensuite, elle est chargée, la parole de Dieu, par l'onction, est chargée de puissance. Nous devons vivre par le Saint-Esprit. C'est dans Romains 12. Nous devons vivre par le Saint-Esprit. L'Esprit, soyez bouillant, la parole nous dit. Soyez bouillant du Saint-Esprit. La parole nous dit aussi, c'est l'Esprit de Dieu qui parlera en vous. On a peut-être une continuité dans notre vie, dans l'esprit. Et nous avons peut-être un début, une continuité, mais certainement pas une fin. Et nous devons recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je ne vous entends pas. Amen. Alors je vous propose un temps de prière pour que nous puissions vraiment recevoir cette plénitude. On a certainement l'esprit en nous, c'est certain. Mais qui en veut encore plus? Est-ce que quelqu'un parmi nous veut encore davantage du Saint-Esprit? Oui, Thérèse, oui, DJ, oui, 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 amen. Alors je vous propose de prier. Je vous propose de nous remettre devant le Seigneur et puis que nous puissions accueillir vraiment la plénitude de son Saint-Esprit. Qu'il vienne ce matin nous bénir. Seigneur, tu vois nos cœurs. Seigneur, nous te demandons de venir nous visiter. Seigneur, tu veux nous remplir de tout ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et Seigneur, nous accueillons ton Saint-Esprit dans notre cœur. Nous voulons plus de toi, Saint-Esprit. Nous voulons, par ta grâce, recevoir ton Saint-Esprit et ton onction. Ta puissance, Seigneur. Ta puissance pour te glorifier, toi seul, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors maintenant, je vais vous proposer un travail pratique. Nous allons mettre ce que je vous ai enseigné en pratique. C'est-à-dire que nous allons prendre nos Bibles et nous allons regarder le psaume 91. Maintenant, soyons libres. Maintenant, soyons libres. Si nous voulons proclamer une parole différente du psaume 91, soyons libres. Alors, ça y est, j'ai perdu les psaumes. Ah, ça m'arrive. Hein. Alors, vous voyez, nous avons un psaume 91 et nous pouvons prendre référence à ce psaume ou pas. Vous voyez ? Et nous pouvons proclamer la parole de Dieu. Libère ce matin, mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit qui est en toi. Libère, libère. Vous voyez, vous pourriez très bien aussi retourner au psaume 139. Vous pourriez proclamer ce matin dans l'esprit, Odile, je suis une créature merveilleuse. Tu peux proclamer ça dans l'esprit, Odile. Vous pouvez aller librement dans votre Bible, aller chercher une parole et la proclamer pour vous, pour votre famille, pour l'Église. Si nous reprenons le psaume 91, regardez, à partir du verset 10, je peux proclamer dans le Saint-Esprit, aucun malheur ne t'arrivera, mon frère, ma sœur. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne m'arrivera. Je le proclame dans le nom de Jésus. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Il te portera sur tes mains, sur les mains, puisqu'il m'aime, il me délivrera. Il faut prendre la parole pour soi et la proclamer. Je te protégerai. Oui, Seigneur, parce que tu connais mon nom, tu vas me protéger. Amen. Je vous propose ce matin, dans la liberté, chacun de pouvoir prendre une parole de la Bible et de se l'approprier et de pouvoir la proclamer. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans la liberté de chacun. Si vous recevez quelque chose pour l'Église, reprenez le verset et soyez gentils, vous allez le noter. Le but, mes frères et sœurs, c'est que quand vous serez chez vous, quand vous serez dans l'Église, quand vous serez dans n'importe quelle situation, quand vous proclamerez la parole de Dieu, vous ne vous tromperez jamais. Parce qu'elle sera conduite dans le Saint-Esprit, dans la parole de Dieu. Vous ne vous tromperez jamais. Parce que le Saint-Esprit va vous guider. Quand vous proclamez « Je suis une créature merveilleuse », ça ne peut pas être faux, puisque c'est la parole de Dieu qui vous le dit. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous proclamez « je vais demander et on me donnera, je vais frapper et on m'ouvrira », si vous proclamez cette parole, eh bien mes frères et sœurs, dans la foi, ça va arriver, parce que Dieu le veut. Amen. Libérons aussi les paroles prophétiques. Libérons les paroles prophétiques. Amen. Si vous voulez, je commence par une parole qui est dans le psaume 92, au verset 11. Seigneur, tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Seigneur, tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Seigneur, tu restaures mon âme. Tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Voilà ce matin dans l'esprit la parole que je veux proclamer. Amen.